Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Alors, est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie?
Je vous en prie.
Aujourd'hui, c'est à moi de vous le dire.
Au commencement était l'action.
Continuez à inventer. Je sais pas ce qui vous attend, je sais pas ce qui va se passer, mais on peut pas tout piloter. Vivez-le à fond.
Mais ce que pensent les autres de nous, on peut pas s'en détacher complètement. Les gens qui nous disent « moi, je me moque complètement de ce que les autres pensent », c'est pas vrai à tous les niveaux. Exclure toute comparaison sociale chez l'être humain, c'est quasiment impossible. On va mettre en place, en fait, des stratégies de régulation émotionnelle.
Je suis Sarah Crosetti et vous écoutez La Bascule. Ici, on s'invite dans l'intimité d'hommes et de femmes au parcours inspirant et singulier. On discute de ce qui les fait vibrer, des moments clés de leur existence où ils ont basculé vers d'autres horizons que ceux vers lesquels on les avait orientés jusque-là. Écoutez leurs témoignages pour que cela vous donne à votre tour l'envie de basculer. Et cette semaine, en exclusivité, nous ouvrons quelques places pour une masterclass gratuite sur le thème « Comment vivre de son projet passion » qui aura lieu le lundi 16 octobre. Si le sujet vous intéresse, ne tardez pas à vous inscrire, les places sont limitées. Le lien d'inscription est dans la description du podcast. Et pour plus de contenu et d'inspiration, rendez-vous sur www.labascule.academy.
Eh ben, merci beaucoup, Mathieu Gassotti, de prêter votre voix au podcast. J'ai énormément de questions à vous poser sur le sujet de la comparaison, mais pas que. Peut-être avant toute chose, pour les gens qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots ?
Oui, je peux me présenter. Je suis professeur de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant au LAPCID et à l'Université Paris-Cité. Et donc, mon laboratoire, le laboratoire dans lequel je suis, s'intéresse à comment l'enfant et l'adolescent se développent, avec la spécificité d'essayer de comprendre le développement de leur cerveau, en fait, en articulant à la fois des méthodes de psychologie et de neurosciences.
Et si je vous ai contacté, c'est parce qu'effectivement, les sujets de la comparaison à autrui, bah, c'est quelque chose qui est très récurrent, mais qui est encore plus important dans un contexte de changement de vie. Ça prend encore plus d'importance, de sens. Et donc, il y a des questions qui reviennent vraiment tout le temps par rapport à ces sujets-là. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi on se compare ?
C'est une bonne question. Alors, on n'a pas de réponse précise sur le pourquoi, d'où ça vient. On sait juste que, de façon très précoce dans le développement, on va retrouver en fait des formes de comparaison sociale. Il se trouve que les êtres humains, on sait qu'on est, nous sommes des êtres sociaux, c'est-à-dire que c'est un besoin primaire d'avoir le contact et la proximité au même titre en fait que de se nourrir. Si vous êtes pas, si vous n'avez pas en fait de contact avec autrui, vous pouvez aller jusqu'à la mort ou en tout cas des syndromes cliniques qui sont extrêmement graves avec un arrêt du développement cognitif et socio-émotionnel de l'enfant. Donc c'est ce besoin d'être en présence d'autrui est fondamental. Et on a pu mettre en évidence chez les tout-petits, chez les bébés, en fait, de quelques mois, en fait, qu'il y avait déjà des éléments de comparaison sociale. C'est qu'ils étaient déjà capables de détecter qu'autrui pouvait avoir un partage différent d'eux et ils réagissaient. Alors, c'est vrai qu'avec les bébés, on ne peut pas leur demander parce qu'ils ne parlent pas. Donc, on a mis en place, en fait, des méthodes spéciales pour étudier les réactions, en fait, que le bébé va avoir quand on lui présente quelque chose. C'est assez simple. En fait, ce qu'on regarde, c'est son regard. Et on part du principe que s'il est surpris entre deux situations, c'est qu'il a été capable, en fait, de détecter qu'il y avait quelque chose. Et donc, on va observer finement le temps de regard. Et par exemple, on va faire deux situations. Une situation où on partage un gâteau de manière équitable. Et on va la comparer à une situation dans laquelle on partage un gâteau de manière inéquitable. Il y en a un qui en a plus que l'autre. Et là, très tôt dans le développement, en fait, on se rend compte qu'ils réagissent. Ils réagissent, ils regardent plus longtemps la situation inéquitable. C'est-à-dire qu'ils se disent, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, ils ont été capables de faire la différence entre les deux. Et cette réaction à l'inéquité, c'est une des premières traces. Ça ne veut pas dire que c'est inné, mais c'est les premières traces qu'on est capable de mettre en évidence du fait qu'il y a une comparaison. Ils ont été capables de comparer qu'il y a quelque chose de différent entre le partage qu'on a fait pour les différentes personnes.
Oui, donc en fait, c'est pas simplement la comparaison de « il y a quelque chose de différent », c'est la comparaison de « c'est différent » lié à un autre être humain.
Toujours. C'est-à-dire que la comparaison sociale, elle implique essentiellement, alors c'est souvent le cas, de comparer ce que autrui va obtenir ou de comparer la performance qu'on peut avoir par rapport à celle d'autrui. Vous avez deux types de comparaisons sociales qu'on va retrouver chez les enfants, chez les adolescents et même plus tard chez les adultes. C'est la comparaison sociale ascendante et la comparaison sociale descendante. C'est-à-dire que je peux me comparer à quelqu'un qui est plus performant, qui est meilleur, qui a des meilleurs résultats ou un meilleur revenu ou quelque chose de plus que moi. Ça va être une comparaison ascendante. Et je peux aussi me comparer à des gens qui, au contraire, ont moins ou ont plus de difficultés. Et ça, c'est plutôt une comparaison descendante. Et ces deux types de comparaisons ne vont pas du tout avoir les mêmes effets, en fait, sur votre bien-être, sur ce que vous ressentez, sur l'estime de vous-même. C'est-à-dire que si vous comparez systématiquement à des gens qui ont de moins bonnes notes, qui sont moins bons, vous allez avoir plutôt tendance à redorer un petit peu votre estime de vous-même et vous sentir meilleur, et ça va être mieux. Alors, chez les enfants, c'est la comparaison avec les notes. Mais vous savez, chez les adultes, ça peut être, par exemple, « Ok, j'ai une consommation d'alcool qui est importante, mais je me compare à quelqu'un qui boit moins ou à quelqu'un qui boit plus. » Donc, c'est ces éléments-là qui vont changer un petit peu la représentation qu'on a, en fait, de nous-mêmes et de notre propre comportement. Et il se trouve que le fait de se faire une comparaison descendante, c'est plutôt valorisant. Le fait de faire une comparaison ascendante, là, c'est un peu plus compliqué. C'est que vous comparez à quelqu'un qui est meilleur que vous et qui a mieux réussi. Et donc, soit ça peut être source de motivation, mais pour ça, il faut que cette personne, elle ne soit pas trop haute. Il faut qu'elle soit pas trop différente de vous. Mais la plupart du temps, c'est plutôt source de... Alors, ça va de la jalousie à, au contraire, des affects plutôt négatifs parce que vous vous sentez moins bon, moins efficace qu'une autre personne.
Alors, j'ai plein de questions sur ce sujet-là, mais avant ça, j'avais une autre question par rapport à ce que vous disiez avant, qui était effectivement, si la comparaison entre eux, c'est inné, qu'est-ce qui fait que, du coup, on est plus ou moins sujet à se comparer? Du coup, c'est l'éducation qui joue?
Alors, c'est pas inné, c'est précoce.
D'accord.
Je fais la petite nuance parce que pour moi, c'est très différent. Inné, ça voudrait dire qu'on a pu mettre en évidence, ce qui est très compliqué, que indépendant de toute interaction avec l'environnement, génétiquement, notre comparaison, elle est programmée. Or, c'est pas ce qu'on peut faire, et en particulier parce qu'il y a déjà une forme de développement et d'interaction sociale, même limitée avec l'environnement in utero. Donc, ça va être très compliqué, en fait, de prouver que c'est inné. Donc, c'est plutôt dans la première année de vie, fin de première année de vie, qu'on est capable, avec certaines méthodologies, de détecter déjà les prémices d'une forme de comparaison sociale. Ensuite, chez les enfants de 3 ans, là, on a plus d'éléments qui nous permettent d'identifier qu'il y a cette comparaison sociale. Donc, ce n'est pas inné. En tout cas, on n'a pas le moyen de prouver que c'est inné. Et c'est effectivement quelque chose qu'on va apprendre. C'est quelque chose qu'on va apprendre dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire que chaque fois que vous faites quelque chose, et c'est vrai chez les plus petits, il va y avoir une forme d'observation et d'imitation. Beaucoup, en fait, des comportements. Il y a beaucoup des acquisitions, pas toutes, mais qui passent aussi par l'imitation des parents, l'imitation des frères et sœurs, l'imitation de ce qui est en train d'être, de ce qui est disponible en fait très tôt chez le bébé. On a par exemple de l'imitation néonatale, c'est-à-dire que si vous tirez la langue à un nouveau-né, dans certaines conditions, il va reproduire en fait ce même geste. Alors même qu'il a très peu de représentation de son corps, de ce que ça veut dire, etc. Donc c'est vraiment des comportements très précoces. Donc l'imitation, sans cesse, on va regarder ce que l'autre fait pour pouvoir le reproduire. Et on va avoir le même type d'éléments dès lors qu'on va essayer de mettre en œuvre un certain nombre d'actions très diverses et variées. Hein. Ça peut être de jouer, ça peut être de quelque chose. On va regarder ce que l'autre fait. Il y a une forme d'apprentissage social, c'est-à-dire que cette comparaison, elle a aussi un rôle très important dans le développement de l'enfant. C'est-à-dire qu'elle nous permet de savoir, d'apprendre comment on peut faire les choses différemment, si notre performance se situait, de savoir si c'est comme les autres, si c'est pas comme les autres. Donc, elle a aussi un rôle, en fait, une composante d'apprentissage qui est fondamentale.
Donc, ça n'existe pas les enfants qui ne font pas de processus d'imitation ou qui évoluent par eux-mêmes.
On n'évolue jamais par soi-même. Il y a toujours de l'apprentissage social. Encore une fois, c'est une composante fondamentale. C'est-à-dire que si vous prenez un bébé et que vous l'isolez, en fait, de ses parents ou de tout adulte qui va établir un lien affectif avec lui et que vous lui donnez à manger, que vous faites en sorte qu'il fasse chaud, qu'il n'ait pas froid, etc., il va dépérir, cet enfant. Et d'ailleurs, quand on a fait des études comme ça chez le singe, les singes sont morts. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un besoin primaire de proximité, de contact, de relation affective. Et donc, cette relation affective, elle va créer effectivement un lien favorable à l'imitation, mais tout ça dans une dimension positive. La question qu'on peut se poser, c'est comment, sachant qu'il existe ces mécanismes de comparaison, comment on peut les rendre vertueux, comment les limiter, parce qu'ils peuvent aussi avoir des effets délétères plus tard, et comment on peut surtout ne pas les renforcer systématiquement. Parce que là aussi, on en discutait il n'y a pas très longtemps avec un collègue. Une des questions, c'est cette comparaison sociale ascendante. Elle va avoir des effets qui peuvent être très négatifs sur l'estime de nous-mêmes, c'est-à-dire l'estime qu'on a de notre capacité à réussir des tâches, à réussir dans la vie. Si on se compare systématiquement à des personnes qui sont meilleures que nous, ça va vite arrêter de nous challenger et ça va surtout nous rendre un petit peu, dépressifs, mais en tout cas nous mettre dans un état affectif pas très agréable. C'est-à-dire que si vous allez regarder les journalistes qui, au même moment, ont mieux réussi que vous, sont plus loin, etc., vous dites « qu'est-ce que j'ai fait ?» vous interrogez, vous remettez en question. Donc, si vous faites de la comparaison sociale de ce type-là systématiquement, c'est pas bon pour vous, en tout cas pour votre estime de vous-même. De la même manière, si vous êtes dans une classe à l'école et que systématiquement, vous êtes celui qui a les moins bonnes notes, en fait, de la classe, cette comparaison sociale, elle ne vous aide pas du tout, en fait. Ça ne vous aide pas de savoir qu'il y a des gens qui ont eu 20, si vous, vous avez eu 0. Ça ne vous renvoie pas une bonne image de vous-même. Et j'ai envie de dire, mais pourquoi, en fait, et c'est la question qu'on se pose à l'école, pourquoi on renforce à ce point ces éléments de comparaison? Pourquoi on fait en sorte que les enfants soient systématiquement dans une situation où ils vont se comparer les uns aux autres? Et parce que la clé, et là c'est plutôt, presque une philosophie de vie, ou en tout cas de se poser la question, la clé elle est peut-être pas dans la comparaison par rapport aux autres, mais d'essayer de se comparer par rapport à soi-même, et l'évolution par rapport à soi-même. Mais ces mécanismes de comparaison sociale, ils sont pas toujours négatifs non plus, il y a quelques situations où ça permet quand même de redorer un petit peu son estime de soi-même, si on se met à se comparer de manière descendante. C'est-à-dire que si on regarde les autres qui réussissent moins bien.
Oui, mais ça, du coup, c'est un peu lié aussi à la gratitude, je trouve. La comparaison descendante, c'est de se dire finalement, c'est pas si mal ce que j'ai, c'est pas si mal ce que je fais et là où j'en suis.
Oui, c'est vrai. Ça peut. Alors, je ne connais pas d'études qui l'ont lié au sentiment de gratitude. Généralement, c'est un peu presque une fausse bonne nouvelle, en fait, d'être capable de se comparer à des gens. C'est presque plus pour se rassurer sur nous-mêmes. On a constamment besoin, en fait, de se situer, de savoir si ce qu'on fait est correct, c'est bien, c'est pas bien, on réussit pas. Et systématiquement, quand on est en particulier dans des situations où on ne sait pas trop comment ça va se passer, on a tendance à aller chercher de l'information dans le social, dans la comparaison de ce que les autres sont en train de faire. Je sais pas moi, dans un dîner, vous savez pas trop comment vous comporter, vous regardez comment les autres font. Ça, c'est une source d'information et ça peut vous aider. Et c'est vrai que la plupart du temps, quand vous savez pas quelque chose, alors bien sûr, vous pouvez faire des démarches par vous-même, mais c'est intéressant d'aller chercher l'information chez des amis ou de poser la question à quelqu'un. Donc ça, c'est des mécanismes sociaux qui sont parfaits pour l'apprentissage. Là où ça devient compliqué, c'est quand cette comparaison, elle est pas forcément à votre avantage et parfois, elle est un peu biaisée aussi. C'est-à-dire qu'on a une fâcheuse tendance à se comparer systématiquement à des personnes dont on croit qu'ils sont meilleurs, dont on croit qu'ils réussissent mieux. Ce n'est pas forcément le cas. Ça existait déjà du temps où voilà, je vais me comparer à une star de rock, je vais me comparer à quelqu'un dont je pense qu'il réussit, que sa vie est géniale. Non, c'est l'apparence que j'ai de sa vie, c'est l'apparence qu'il veut bien me donner. Et de la même manière, sur les réseaux sociaux, on retrouve le même type de mécanisme. Si vous regardez ce que vos amis postent sur les réseaux sociaux, c'est rare que ces amis postent des choses négatives, des échecs, ce genre de choses. La plupart du temps, c'est je poste la super soirée que j'ai passée, je poste le super moment que je viens de passer, le super dîner, les super trucs. Si vous comparez systématiquement à cette illusion en fait, de leur réalité, parce qu'il y a peu de chances que leur vie elle soit parfaite, à chaque fois, effectivement, ça peut générer de la frustration, du sentiment d'infériorité et de difficulté par rapport à quelque chose qui n'existe pas. Et c'est là où ça devient plus compliqué. C'est quand ces mécanismes de comparaison, ils deviennent même complètement artificiels et on se compare à des choses qui n'existent pas.
Mais pour autant, on a beau le savoir, ça fonctionne quand même. Alors, est-ce que vous avez des clés peut-être pour s'affranchir un peu de cette comparaison qui est finalement pas saine ?
Alors, vous dites, on a beau le savoir. En fait, c'est pas si... Même si on est capable d'intellectualiser à un moment donné quand on se pose la question, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Et même pour moi qui travaille sur la comparaison sociale depuis longtemps, j'avais une collègue qui postait plein de choses sur les réseaux sociaux et j'avais cette impression que sa vie était extraordinaire jusqu'à ce que je réfléchisse et que je la vois en fait dans la vraie vie et que je prenne conscience en fait du biais auquel j'étais confronté. C'est-à-dire que notre cerveau est fait de telle manière qu'effectivement on va faire des raccourcis, on va faire des raccourcis dans l'interprétation et donc ce qu'on voit, on a tendance à le surgénéraliser ou à considérer que effectivement, sa vie est bien meilleure que la mienne parce qu'elle fait plein de choses et que moi, je ne fais rien. Mais même si j'ai conscience de ce biais-là, ce n'est pas évident d'y résister. Alors, la première étape, c'est d'en avoir conscience, mais ce n'est pas toujours évident. Dites à un adolescent que la plupart des images qu'il voit sur les réseaux sociaux de mannequins ou ce genre de choses sont soit des choses avec des filtres maintenant, donc qui ne sont pas le reflet de la réalité, soit carrément des choses qui ont fait l'objet d'une manipulation sur Photoshop. Mais votre cerveau, ce qu'il voit, c'est l'image de quelqu'un, avec une peau parfaite, avec un corps parfait, des abdominaux parfaits, vous voyez. Ça, il le voit, il le perçoit, en fait. Et c'est la première impression, en fait, que votre cerveau, il récupère. Donc derrière, même si vous intellectualisez, même si vous réfléchissez, même si vous êtes capable de résister à ce biais, il y a quand même un effet. Donc vous n'arriverez pas à le supprimer complètement. Par contre, dans certains cas, cette comparaison sociale, c'est pas mal d'être capable de, un, d'essayer de trouver des contextes qui permettent de la minimiser, et deux, quand même d'expliciter, ce qu'on fait assez peu en réalité, je vous assure, que l'éducation aux médias chez les adolescents en particulier, mais aussi chez les adultes, il y a plein d'adultes, quand ils voient des images, ils ne se posent pas cette question-là, et ils sont sensibles, en fait, à l'effet sans être capables de résister au biais, ou sans même être capables de détecter qu'en réalité, c'est pas la vraie vie, en fait, et que c'est pas, hein, c'est qu'une... Une apparence, une interprétation d'une vision positive en fait, de la vie des individus, mais que ce n'est pas vrai. Et donc ça, comme on a ces mécanismes de comparaison, s'ils sont dans ce type de contexte, ça peut avoir des effets négatifs.
Ok, donc la première étape, c'est déjà de prendre conscience.
Qu'on se compare, oui. Déjà prendre conscience qu'on se compare, prendre conscience qu'il existe un certain nombre de biais sociaux. Il y a la comparaison sociale, mais vous avez aussi le conformisme social. C'est-à-dire que si je me compare aux autres, c'est parce que j'appartiens à un groupe ou en tout cas, j'ai effectivement une communauté. J'ai besoin en fait de ce contexte social et j'ai besoin d'avoir des amis, d'avoir une famille, de me sentir appartenir à un groupe social. Or, si ce que je fais dans ce groupe social n'est plus en accord avec les normes en fait véhiculées ou la représentation que j'ai de ces normes, je prends un risque très très fort de me faire exclure. C'est-à-dire que si vous avez un groupe d'amis et que vous vous mettez à avoir des comportements qui ne sont pas en accord avec ce qui est valorisé par le groupe d'amis, vous augmentez vos chances de vous faire exclure. Et le sentiment d'exclusion, c'est quelque chose qu'on n'aime pas. Donc très tôt dans le développement, et en particulier à l'adolescence, quand on va investir encore plus la sphère amicale que la sphère familiale, quand on va se détacher des parents pour aller voir justement les amis, on va être très sensible à ce que font les autres, leur réaction par rapport à notre comportement, justement pour essayer de minimiser ce sentiment d'exclusion, ou en tout cas ce risque d'être exclu du groupe. Et donc ce conformisme aux normes qui sont véhiculées par le groupe, là, ça va avoir une incidence très très forte et je vais devoir comparer en fait ce que je fais par rapport aux autres. Mais si vous êtes dans un groupe où on valorise le fait de tous les week-ends de boire de l'alcool, c'est très compliqué de dire « moi je ne bois pas ». Parce que tout de suite, vous êtes en décalage par rapport au groupe. Donc ça ne veut pas dire que vous allez être systématiquement exclu, et vous augmentez vos chances d'être exclu parce que vous ne partagez plus les valeurs du groupe. Et ça, c'est quelque chose qui est très compliqué. Donc, on va avoir tendance à se conformer, on va tendance à vérifier que ce qu'on fait est en adéquation et valoriser, obtient. Alors, quand je dis valoriser, ça ne veut pas dire qu'il y a des, il y a des likes à chaque comportement, encore que sur les réseaux sociaux, c'est clairement, maintenant, c'est clairement explicite. C'est-à-dire qu'on a des likes, on a des partages, on a des réactions, on a des choses. Mais dans la vie de tous les jours, vous allez regarder si les gens, ils sourient, s'ils font des têtes bizarres, s'ils vous jugent. Ça, ce sont des indications qui vous permettent de savoir si le comportement que vous faites est valorisé ou pas par le groupe.
Mais ça, je trouve que ça résonne particulièrement dans un contexte de changement de vie, parce que du coup, il y a un changement de groupe, généralement. Enfin, changement de métier, changement de région, changement de style de vie. Et du coup, on est très vite amené à vivre ce que vous décrivez, en fait.
Si vos changements, si le changement que vous faites impacte vos valeurs, vos centres d'intérêt, c'est, j'ai envie de dire, votre nouveau vous, ou en tout cas, quelque chose de différent de ce que vous étiez avant, il y a des chances, effectivement, que vous soyez plus complètement en accord avec les groupes. Alors ça, c'est ce qu'on voit d'un point de vue développemental aussi, c'est-à-dire que les amis que vous aviez au lycée, même si c'était des amis, si vous n'avez pas continué à évoluer ensemble et que vous les revoyez 20 ans après, vous avez moins de points d'intérêt, moins de choses que vous avez fait en commun, donc c'était peut-être de très bons amis il y a 20 ans, en réalité, aujourd'hui, vous vous retrouvez simplement dans le passé, mais plus forcément, vous n'êtes plus la même personne qu'il y a 20 ans. Quand on est dans le cadre d'un changement de vie, là aussi, on imagine très bien qu'il y a des changements profonds sur les valeurs, sur ce qui est important pour nous. Je sais pas, moi, si vous étiez dans un groupe où la valeur travail était essentielle, où il fallait travailler 45 heures par semaine, 50 heures par semaine pour se faire valoriser, pour montrer, etc., et qu'enfin, vous changez de vie, vous vous dites, bah non, cette fois-ci, maintenant, j'ai plutôt envie de travailler beaucoup moins, mais de profiter davantage de mes enfants, etc., vous vous retrouvez dans quelque chose où ce n'est pas forcément en adéquation. Et donc là, quand on est chez les adultes, il y a peu de chances qu'on vous dise « Non, sortez, c'est terminé, on vous exclut, mais on vous appelle moins, vous avez moins envie d'être avec les gens. » Et puis naturellement, en fait, vous finissez par changer votre sphère amicale. Chez les adolescents, ça peut être un tout petit peu plus violent. C'est-à-dire qu'ils n'hésitent pas à vous exclure de façon explicite en fait, du groupe en disant « Dégage, on ne veut plus te voir » parce que vous n'êtes plus en accord avec les normes du groupe.
Mais alors moi j'ai une question là-dessus, c'est que, et donc moi je suis pas adolescente, mais moi ce que je trouve difficile, c'est effectivement que j'ai l'impression d'être en accord avec mon changement de vie, mes valeurs, etc. Par contre ce qui est difficile pour moi, c'est quand je m'expose à nouveau à ma vie d'avant, entre guillemets, du coup je sens bien que mes valeurs sont plus les mêmes, et pour autant la comparaison à autrui, elle m'affecte encore parfois, et je me dis comment faire, alors que moi je suis tout à fait en accord avec ce que je vis. Mais je me dis, comment faire pour prendre du recul par rapport à cette comparaison qui est quand même intempestive ?
La comparaison, elle va générer des affects. La question, c'est comment je fais pour relativiser l'influence de cette comparaison de manière à pouvoir réduire en fait, les affects négatifs qui peuvent être impactés par ces choses-là. Ça, c'est une bonne question. C'est une question de développement personnel. Il y a plein de gens qui ont essayé de répondre et de proposer des solutions. Nous, en psychologie, on n'a pas la solution toute faite. Mais déjà d'avoir et pour moi, vous n'arriverez pas à vous détacher des autres. Vous n'y arriverez pas. Les gens qui nous disent, moi, je me moque complètement de ce que les autres pensent, c'est pas vrai à tous les niveaux. Et la plupart du temps, c'est presque une forme de déni de l'existence même, justement, de cette importance. Mais dans tous les cas, il va y avoir un phénomène de comparaison sociale. Et ce que pensent les autres de nous, on peut pas s'en détacher complètement. On va mettre en place, en fait, des stratégies de régulation émotionnelle. C'est-à-dire qu'on va essayer de relativiser. Donc, on va essayer cognitivement de se dire, bah, ce qu'ils pensent, ce n'est pas forcément important. Le plus important, c'est ce que moi, je pense. Et se disant ce genre de choses, effectivement, ça permet de réguler un petit peu les affects négatifs. Mais exclure toute comparaison sociale chez l'être humain, c'est quasiment impossible. Je vois pas comment ça peut être fait. Par contre, vous pouvez essayer de ne pas la renforcer. Et de vous focaliser davantage sur votre évolution, donc vous comparez vous-même, voir comment vous progressez, comment vous apprenez, comment, parce qu'on n'est pas forcé de progresser aussi, il y a des fois des changements qui sont au contraire plus difficiles, moins efficaces, mais on a essayé quelque chose, donc comment on apprend aussi de nos expériences. Ça, c'est se focaliser sur ce type de comparaison plutôt que de regarder ce que le voisin a fait ou ce que le voisin peut penser de ce qu'on fait, c'est mieux, mais ça nous affectera toujours un petit peu. Même si vous mettez en place des régulations, on a quand même des mécanismes comme ça, qui sont ancrés et qui sont très précoces, qui font que voilà, ça nous importe de la même manière ce que vont penser vos parents, ce qu'ils pensent. parce qu'il y a ce lien précoce qui s'est établi, ça va avoir une incidence. Ça va avoir une incidence sur vous-même, sur la façon dont vous envisagez les relations. Et donc, forcément, vous ne pourrez pas... Ça fait une coloration, si vous voulez, de votre façon de voir les choses. Ça ne veut pas dire que ça guide tout et que vous êtes dans le conformisme à tout ce que les autres peuvent penser de vous. Mais c'est très compliqué de s'en extraire complètement.
Ok, donc c'est plus sur l'émotion qu'il faut travailler, ou en tout cas la transmission...
Alors, il y a un double travail. Évitez, en tout cas, essayez d'éviter de vous comparer. Essayez d'éviter de vous comparer aux autres si ça vous fait du mal.
Mais ça, concrètement, comment on fait, c'est hyper difficile. Parce que j'ai l'impression que c'est quand même un truc hyper spontané.
Eh bien, il faut... Oui, alors se comparer, ça dépend. Parce que si c'est une comparaison qui vous pousse sur la question de la jalousie, encore une fois, il faut travailler là-dessus. Qu'est-ce qui fait que vous êtes jaloux? Qu'est-ce qui fait que ça vous procure ce type d'affect négatif? Et là, j'ai envie de dire, c'est un travail sur soi à faire pour essayer de comprendre pourquoi c'est si important et quelle est l'origine, en fait, du fait que vous avez besoin de cette approbation ou de ce jugement d'autrui pour avancer et parce que vous n'avez pas forcément une suffisante estime de vous-même. Alors,
c'est lié à l'estime de soi, à la confiance en soi un peu.
Il y a, en tout cas, plus vous allez avoir confiance en vous-même, plus vous allez avoir confiance dans votre capacité personnelle à réussir une tâche et à vous en sortir et à être capable de surmonter, j'ai envie de dire, la plupart des épreuves de la vie, moins vous allez être sensible au regard des autres et ce qu'ils pensent de vous et de ce que vous pouvez faire. Donc oui, l'estime de soi est très importante, mais cette estime de soi, elle a des origines précoces aussi. Elle est aussi liée à la façon dont vos parents, dont vos proches, très très tôt... ont été capables de vous valoriser, de répondre à vos attentes, etc. Donc, il y a cette estime de soi, elle ne vient pas comme ça en claquant des doigts, il y a eu toute une construction. Certains ont une meilleure estime d'eux-mêmes, un meilleur sentiment en fait, de la capacité à pouvoir, on parle d'auto-efficacité, donc cette capacité à pouvoir résoudre les problèmes de la vie. Il y a des différences de genre, c'est très culturel. Dire que les garçons ont davantage confiance dans leur capacité à résoudre des problèmes que les filles. Et ça, ça peut affecter aussi des éléments de comparaison sociale. Ça vient, c'est pas d'origine génétique du tout, c'est simplement une construction sociale. C'est-à-dire que c'est vraiment un apprentissage, mais parce qu'on renvoie aussi très tôt chez les garçons dans leur capacité à résoudre tous les problèmes, et ils vont être capables, alors que les filles, elles vont plutôt avoir besoin d'aide, elles vont être plus fragiles, etc. Donc, on crée aussi, en fait, des différences comme ça de genre uniquement parce que le comportement qu'on va avoir avec les garçons et les filles va être très différent. Et on le retrouve à l'école. Vous savez, il y a là, pour le coup, les stéréotypes de genre, c'est quelque chose qui est extrêmement fort. Et vous prenez une tâche, selon que vous la présentez comme étant un examen de mathématiques ou vous la présentez comme étant... simplement une tâche plutôt artistique, même si c'est exactement la même chose que vous faites, à savoir quelque chose en termes de géométrie, vous n'aurez pas les mêmes résultats chez les filles.
C'est fou, ça.
Dans un cas, quand vous le présentez comme quelque chose de mathématique, elles vont être moins bonnes que dans les garçons. Quand vous le présentez comme quelque chose de plutôt artistique, elles vont plutôt être meilleures. Alors que c'est exactement la même tâche. La façon dont vous le présentez va amorcer un stéréotype de genre qui a une incidence.
Les filles sont moins bonnes en maths.
Les filles sont moins bonnes en maths, ce qui n'est absolument pas vrai. Mais si elles en sont convaincues, en fait, elles ont construit vraiment un comportement qui fait qu'elles vont finir par être moins bonnes. Donc, tout ça se joue aussi dans la dimension sociale et a une incidence très, très forte sur le développement et l'estime de soi, est-ce qu'on pense être capable de réussir. Donc, notre relation aussi au regard des autres, à leur approbation ou leur désapprobation, il y a aussi énormément de choses culturelles. Et bien évidemment qu'on ne réagit pas à l'environnement social de la même manière dans certaines cultures que dans d'autres. Donc, tous ces éléments existent. Est-ce qu'on peut complètement les neutraliser? Pas forcément. Est-ce que, par contre, on peut travailler pour essayer de les minimiser et d'éviter de les amplifier? Ça, oui. Ça, oui. Et à l'école, il y a certainement des vraies questions à avoir autour de... la façon dont on peut minimiser cette comparaison sociale, parce qu'elle peut avoir des effets très négatifs, et en particulier chez les enfants qui sont issus de milieux défavorisés, où là, ça va avoir beaucoup d'incidence. Je vous donne juste un exemple. J'ai mon collègue Sébastien Goudot de Poitiers qui fait une expérience toute simple. Vous voyez, la comparaison sociale, elle est manipulée de manière très subtile dans cette expérience. Il fait une tâche en classe entière. Ils ont un petit exercice à faire. Et on leur demande en fait de lever la main dès qu'ils ont terminé cet exercice. Et le simple fait de voir les gens qui lèvent la main, et donc de voir que vous êtes en retard, vous êtes en difficulté par rapport aux autres, va avoir une incidence en particulier chez les enfants qui sont issus de milieux sociaux défavorisés. C'est-à-dire que là, on va se comparer juste en termes de performance, il a été plus vite que moi. Rien que ça, ça mobilise en fait des ressources attentionnelles, c'est-à-dire qu'on se dit, mais mince, il était plus vite, pourquoi, etc. Donc on s'interroge, et du coup, on est moins mobilisé sur la tâche, et ça rend la tâche plus difficile. C'est-à-dire que quand vous faites une activité et que vous êtes en présence de quelqu'un qui est en train de regarder, qui est en train de vous évaluer, qui est en train de se poser la question de ce que vous... ou en tout cas, qui regarde ce que vous êtes en train de faire, vous dites, oh là là, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais pas bien? Etc. Cette réflexion-là, ce sentiment-là, ces affects, ça a pour conséquence, en fait, de mobiliser des ressources. Or, nos ressources, elles ne sont pas infinies. Et donc, du coup, si elles sont mobilisées par cette question du social, c'est-à-dire que, voilà... Et en particulier, si je n'ai pas une très haute estime de moi, je vais vraiment être hyper impacté parce qu'on est en train de me regarder. C'est plus mobilisé sur la tâche, donc ça va m'impacter. Et on voit bien que quand on est en présence d'autrui, juste en présence d'autrui, on n'a pas du tout les mêmes résultats sur des tâches même très élémentaires de psychologie. C'est-à-dire qu'ils sont seuls, ils s'en sortent très très bien. Ils sont en présence d'autrui, il peut y avoir des effets, alors soit de stimulation, soit au contraire des effets délétères. Ça dépend d'un certain nombre de facteurs, mais ça va avoir une incidence sur la composante attentionnelle, en tout cas susceptible d'être mobilisée pour la tâche. Ça prend des ressources, en fait. Et je donne souvent cet exemple, mais je trouve que c'est vraiment... quiconque a déjà fait un tournage vidéo, quand on, y a rien de plus difficile que quand on vous met la caméra et qu'on vous demande de marcher de façon naturelle.
C'est vrai.
C'est-à-dire que marcher, c'est un truc qui est purement automatique, pourtant, c'est pas un truc qui demande beaucoup d'attention, mais dès lors, en fait, que vous allez avoir des gens qui vous regardent marcher et qui sont derrière une caméra, vous commencez à cogiter et à vous dire « mais comment je dois marcher? Comment je dois faire? Comment je dois... » Et là, vous n'y arrivez plus du tout parce que c'est censé être quelque chose de complètement naturel et automatique. Or, là, vous vous placez dans un mode où vous commencez à réfléchir à marcher. Et quand vous réfléchissez à marcher, ça devient plus compliqué. Alors, imaginez que ça existe aussi sur les tâches les plus complexes. Vous mobilisez des ressources attentionnelles et vous avez plus de difficultés à vous en sortir. Alors, soit ça vous pousse à vous reconcentrer davantage, ça peut vous aider. Soit, au contraire, ça mobilise des ressources. Et là, c'est comme si vous faisiez deux tâches en même temps et ça ne fonctionne pas.
Mais c'est vraiment ce que j'allais vous poser la question, justement, s'il y avait un lien, s'il y avait des choses qui avaient été montrées entre comparaison à autrui et l'impact sur la créativité, sur le fait d'oser, sur le fait de créer, que ce soit un impact positif ou négatif.
Alors, il y a beaucoup de littérature sur cette question-là. Et la plupart du temps, on a plutôt montré que le fait d'avoir en particulier quelqu'un qui est présent, mais qui a soit des situations de compétition, soit des situations d'évaluation, ça ne fonctionne pas bien. Ça ne fonctionne pas bien, ça a plutôt tendance en fait, à nuire à la créativité. Alors, on parle beaucoup aujourd'hui de créativité collective, mais ce qu'on sait en fait, de la créativité collective, c'est que quand vous faites un brainstorming, les réponses qui sont proposées par le groupe sont généralement moins nombreuses et moins originales que si on prend les gens isolément. Donc, on a l'impression que c'est mieux en groupe. Souvent, ce n'est pas vrai.
Il y en a qui prennent le dessus, je trouve, dans un groupe.
Alors, il y a plein de dimensions et de facteurs qui peuvent venir influencer le groupe, en particulier quand on est dans un contexte d'entreprise et que la personne que vous avez en face de vous, c'est votre supérieur hiérarchique. Il y a des enjeux, en fait, sociaux qui se jouent, qui sont bien au-delà de la tâche. C'est-à-dire que même s'il vous rassure, vous avez envie de paraître intelligent, de paraître créatif, de paraître original, mais pas de paraître complètement farfelu, inutile, etc. Donc, si vous donnez un exemple, une idée un peu originale, un peu farfelu, même parfois, qui vient briser en fait complètement le questionnement original qu'on se posait, j'en sais rien, vous êtes à la poste, vous leur demandez ouais, qu'est-ce qu'on va faire, je ne sais pas moi, une boîte aux lettres sans lettres. Qu'est-ce que devient une boîte aux lettres sans lettres? Vous dites là vous avez créé une rupture. Comment elle va être accueillie par votre supérieur hiérarchique qui considère que non, la poste ça doit rester avec des lettres, ça doit rester avec du courrier à envoyer. Or, on voit bien qu'il y a un potentiel très intéressant à réfléchir à ce qu'on pourrait faire des boîtes aux lettres sans lettres puisqu'il y a de moins en moins de courriers, mais on voit bien que ça peut réviser suffisamment l'identité même de l'entreprise ou de l'objet qui fait que c'est pas forcément accueilli. Alors, il y a des mécanismes qui nous permettent de réduire ça. D'ailleurs, on parle du brainstorming, mais en vrai, le brainstorming, c'est beaucoup plus complexe, en fait, et la vocation du brainstorming était justement de minimiser ces biais sociaux. Comme la plupart du temps, on ne sait pas faire du brainstorming, on fait un peu n'importe quoi, mais l'évaluation sociale est rarement très positive pour la créativité. Ça a plutôt tendance à avoir des effets négatifs tant sur le nombre que sur la qualité de ce qu'on peut produire. À ceci près que ça va aussi dépendre de l'âge. Chez les adolescents, c'est plutôt au contraire une stimulation. C'est-à-dire que comme ils sont à une période assez particulière de leur développement social, le fait d'être évalué, le fait d'être dans ce contexte-là, a eu plutôt tendance à les booster. Chez les enfants, c'était au contraire une catastrophe. C'est-à-dire que les enfants, ils sont incapables de sortir une idée originale s'il y a un adulte qui est en train de les regarder et de les évaluer. Donc, ça dépend de beaucoup de facteurs. C'est très compliqué, en fait, à contrôler les biais sociaux. Et surtout, il faut se poser la question de quels outils d'interaction sociale on se dote pour les limiter et permettre justement l'exploration, y compris d'idées un peu folles. Parce que c'est ça l'enjeu de la créativité. Si tout le monde est d'accord et si l'idée que vous donnez, en fait, tout le monde est d'accord spontanément, c'est qu'il y a peu de chances que ce soit une idée originale. Il y a forcément des moments où il y a des résistances, il y a forcément des moments où on se dit ça n'a aucun sens, pourquoi on ferait ça, c'est en rupture par rapport à ce qu'on a pensé ou par rapport à ce qu'on voulait faire. Donc, nécessairement, si vous apportez quelque chose d'original, dans le collectif, vous allez avoir des gens qui vont dire « mais non, ça c'est impossible, ça n'a pas de sens », ou ce jugement derrière. Et ça peut être complètement délétère pour la créativité. Moi, je l'utilise plutôt comme un indicateur, c'est-à-dire que si tout le monde est d'accord, je me dis « mince, c'est que c'est peut-être pas forcément très original et que tout le monde y a pensé ». S'il y a des résistances, s'il y a des gens qui disent « là, je commence à me dire, peut-être soit c'est une idée qui est vraiment pourrie, ce qui est possible aussi, soit c'est une idée qui, au contraire, a un petit peu de valeur ou au moins c'est une voie qui n'a pas forcément été explorée. »
Mais du coup, ça ramène à d'autres sujets qui sont gérer la critique et comme ce que vous disiez aussi, améliorer son estime de soi pour affirmer sa créativité.
Si vous avez suffisamment confiance en vous-même, bien évidemment, et dans votre potentiel créatif, vous allez oser donner des choses, des informations et même des choses qui sont un peu originales. Si ce n'est pas le cas, si vous êtes dans une situation où vous n'avez pas trop, vous avez un peu peur, vous voulez passer, vous posez plus de questions de comment vous pouvez apparaître auprès de vos supérieurs ou de vos collègues que sur le fond, vous allez vous retrouver effectivement dans une situation où vous aurez moins de ressources mobilisées pour la tâche de créativité et peut-être que vous n'oserez pas en fait donner des éléments. Après, on a pu montrer que du coup, si on augmente la coopération et le sentiment de coopérer au sein d'un groupe, on peut faciliter la créativité. Bon, en tout cas, ça peut vraiment aider, en particulier quand on est en compétition avec d'autres, en tout cas l'out group, d'autres personnes. Mais bon, il y a peu de contextes sociaux qui favorisent beaucoup la créativité et ça fait partie des sujets actuels en fait, du développement de la créativité. On sait par contre que c'est très différent de travailler seul que de travailler en groupe. Mais si on ne donne pas les outils aux gens pour travailler en groupe, ce qui est souvent le cas en fait, on dit bah, vous êtes en groupe, discutez, brainstormez, faites ce que vous voulez, mais on n'a pas forcément d'outils pour penser en fait. La façon de générer et d'explorer de nouvelles solutions, d'aller chercher des nouvelles connaissances, etc. Si vous n'avez pas ces outils-là, ça devient très compliqué en fait, de coopérer pour générer des choses originales. Donc l'enjeu, il est plutôt à la fois d'apprendre aux gens à coopérer, à travailler ensemble, parce que ce n'est pas quelque chose en fait, qui arrive forcément spontanément, c'est quelque chose qu'on peut apprendre, en particulier quand on est dans un mode projet. C'est-à-dire qu'il y a se mettre d'accord sur les valeurs, il y a réfléchir au processus de décision, ce qu'on cherche, etc. Il y a plein de choses qu'on peut mettre en place pour coopérer ou pour collaborer. Et si on ne dote pas, si on n'apprend pas en fait, aux enfants, aux étudiants, aux adultes à faire ce genre de choses, en fait, c'est normal qu'ils n'arrivent pas à coopérer. C'est normal que simplement les mettre en groupe, ça ne suffise pas. D'ailleurs, quiconque a déjà fait un travail de groupe à l'école n'est pas complètement satisfait. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un qui ne fout rien, il y a toujours vous, peut-être c'est vous en fait qui ne fait rien et vous êtes content parce que les autres ramènent des bonnes notes, mais celui qui a fait le travail n'est pas content parce que c'est les autres qui n'ont rien foutu et il serait mieux tout seul. Mais par contre, on ne leur a jamais appris à travailler ensemble. Bah, pour la créativité, c'est pareil. C'est-à-dire que si on n'apprend pas à coopérer aux individus pour travailler sur la créativité, si on ne leur donne pas des outils pour explorer aussi des solutions innovantes, des outils de pensée, c'est-à-dire des outils cognitifs, c'est normal en fait que ce ne soit pas évident à faire.
Mais après, là, je pensais à ça plus dans un cadre, les gens, parce qu'il y a énormément de gens qui ont envie de lancer un projet passion, qui ont envie de lancer un projet d'entreprise, etc., ou un truc un peu plus créatif que ce qu'ils font actuellement. Et du coup, ça n'allie pas forcément le travail de groupe, mais il faut quand même savoir affirmer son idée, aller au bout de son projet, alors même que finalement, on n'a pas toutes les réponses.
Oui, et ça, c'est... Alors, vous avez des gens qui sont très, très bons pour ça, pour avoir des idées, pour essayer de se lancer, etc. D'autres qui ont plus de difficultés parce que quelle que soit l'idée que vous avez, quel que soit le projet que vous avez, ça, il y a forcément des éléments d'incertitude. Vous n'avez aucune idée si ça va marcher, si ça ne va pas marcher. Et donc, forcément, ça suscite des inquiétudes, du stress et des affects négatifs. En tout cas, chez la plupart des gens. Il y a des gens, c'est assez incroyable, ils ont cette capacité d'entreprendre et pas se poser la question, un peu comme les joueurs de poker se moquent un petit peu de ce qu'ils perdent, parce que si vraiment, quand ils perdaient, ils auraient du mal à cacher leurs émotions. Et donc, c'est très compliqué de jouer au poker quand vous êtes dans une situation où vous êtes complètement angoissé comme moi. Hein. Moi, je perds 2 € au poker, je suis incapable, en fait, de jouer au poker pour ces raisons-là. Et pour être entrepreneur, c'est la même chose. Il y a un moment donné, il faut aussi oser passer le pas et peut-être pas se comparer toujours. J'ai une fâcheuse tendance à regarder que les modèles de réussite tout le temps, mais c'est pas, voilà, là aussi, c'est des fantasmes. Hein. Quand vous regardez Steve Jobs, c'est pas lui qui a créé l'iPhone, c'est pas lui qui a créé l'iPad, c'est pas lui. C'est lui qui a piloté, en fait, les armées d'ingénieurs, de designers, de professionnels de chez Apple qui ont conçu des projets, qui ont résolu des problèmes, etc. Mais on a cette idée de Steve Jobs, c'est le créatif incroyable qui a... Donc, il avait un leadership, il avait une vision, il avait des choses, mais on oublie un petit peu que derrière l'homme et le mythe du créatif, il y a souvent toute une équipe qui travaille. Je sais pas, moi, c'est vrai. Quels que soient, en fait, les individus, vous prenez Gustave Eiffel, il avait toute une équipe qui travaillait derrière lui, y compris pour faire la Tour Eiffel, etc. Si vous allez dans le domaine scientifique, un laboratoire, c'est rarement une personne. Tout seul, c'est toujours une équipe, il y a toujours du personnel qui génère des idées, qui apporte, etc. Et on en retient toujours le mythe de l'individu ultra créatif qui fait tout. C'est quasiment jamais le cas. Et aujourd'hui, dans les entreprises, vous avez des dizaines, des centaines même d'ingénieurs qui travaillent pour résoudre les problèmes et les solutionner. On n'en parle jamais de ces gens-là qui sont peut-être très créatifs. Et on va retenir que le big boss qui a généré qui va récupérer en fait toute cette créativité. Alors, je ne dis pas qu'il n'est pas créatif, je dis juste qu'on a là aussi un mythe un petit peu de l'entrepreneur créatif qui réussit tout. Voilà, j'entendais encore des choses sur SpaceX où c'est pas Elon Musk qui envoie les gens dans l'espace, quoi. C'est pas lui qui fait les calculs de trajectoire, c'est pas lui qui a défini les choses. Il a investi, il a travaillé, il a peut-être organisé le travail. Travaille beaucoup, mais ce n'est pas lui qui le fait. Il y a des centaines d'ingénieurs derrière qui travaillent pour lui, pour résoudre les problèmes qui permettent de rendre les choses possibles. Et ça, on a tendance un petit peu à l'oublier. Donc, si on veut directement être ce genre d'entrepreneur et de réussir d'avoir ce genre de success story, c'est une comparaison sociale qui risque, certes, de vous faire rêver, mais quand on est entrepreneur, on n'est pas que dans le rêve. Donc, il faut aussi être un peu terre à terre. Et donc, du coup, ce n'est pas forcément... ultra positif quand vous regardez vos chiffres par rapport à eux. Et l'autre chose, c'est là aussi, on en oublie complètement que ces gens-là ont eu beaucoup, 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 beaucoup d'échecs. On part du principe que ils réussissent tout ce qu'ils ont fait, etc. Mais ils ont eu, quand on regarde leur vie, on se rend compte qu'ils ont échoué 50 fois avant de réussir à vendre quelque chose. Et après, ils ont tous été au bord de la faillite, ils ont tous été au bord de tout perdre, voire même certains ont tout perdu plusieurs fois. Donc, on en parle peu de ça, en fait. Et on parle peu du fait que souvent, quand on entreprend, on prend le risque d'échouer. La plupart des gens qui entreprennent prennent le risque d'échouer. La question, c'est qu'est-ce que j'apprends de cet échec et quelle est l'importance de cet échec pour pouvoir rebondir. Et comme en France, on a une petite difficulté avec l'échec et qu'on veut se mettre dans des situations où il ne faut surtout pas échouer, l'échec est très compliqué. C'est compliqué d'entreprendre sous cet angle-là. Mais quand vous entreprenez, vous prenez un risque d'échouer et que ça ne fonctionne pas. Après, c'est sûr que si vous avez la conviction et que vous portez et que vous poussez, les gens ont persévéré. Après, il y a des gens qui ont persévéré et ça n'a jamais marché. Il n'y a pas de règle absolue. Mais si j'avais de toute façon une recette miracle, tous les entrepreneurs viendraient dans ce bureau pour me poser la question de comment on fait pour s'en sortir de ce point de vue-là. Mais par contre, si vous n'essayez pas, il y a peu d'entrepreneurs où ils disent « Ah bah moi, j'étais là dans mon garage, je m'ennuyais, on est venu me proposer une entreprise et de gagner des millions comme ça en claquant des doigts. » Non. La plupart du temps, ils se sont retroussés les manches, ils ont essayé, ils ont échoué, ils ont recommencé, ils ont échoué, ils ont recommencé. Et à un moment donné, ils ont réussi à entreprendre, mais pas forcément avec une success story du même type que Steve Jobs ou Elon Musk, mais plus, à plus petite échelle, mais qui est déjà très intéressante et source d'épanouissement. Et déjà, être content d'entreprendre, c'est déjà bien. Ça reste une création personnelle, ça reste quelque chose d'intéressant aussi.
Et sur tous ces sujets, est-ce que vous avez des recommandations, peut-être pour ceux qui ont envie d'aller plus loin? Alors, ça peut être la comparaison, le regard des autres, mais si vous avez d'autres recommandations sur ces sujets ou les sujets qui gravitent autour qui vous semblent pertinents?
Je pense qu'aujourd'hui, on a en psychologie un certain nombre de connaissances et établi un certain nombre de faits. C'est vrai sur la comparaison sociale, c'est vrai sur les émotions, sur comment réguler ses émotions, c'est vrai aussi sur les biais cognitifs, sur la façon dont on peut, en fait, notre cerveau peut nous piéger en fait, dans l'interprétation des événements. On a beaucoup de connaissances et je pense que mieux comprendre comment fonctionne son cerveau, sans devenir chercheur en neurosciences, mais mieux comprendre un petit peu les limites en fait, de notre système, ça nous permet de relativiser les choses et peut-être parfois de faire le petit pas de côté. Voilà, de se dire, peut-être que là, cette comparaison sociale, en fait, elle est négative pour moi, elle ne m'apporte rien. Et peut-être qu'il faudrait que je la minimise et que je regarde plutôt ma progression individuelle et comment moi, j'ai réussi à m'en sortir, à avancer à mon rythme et comment je suis meilleur, en fait, que l'an dernier ou qu'il y a 6 mois ou comment je progresse ou comment j'ai envie de progresser pour la suite ou même si ce n'est pas progresser, comment j'ai envie d'être bien, en fait, ça dépend, en fait. Il n'y a pas d'idée, on n'est pas obligé de toujours vouloir s'améliorer. On peut aussi avoir envie de simplement être bien sans se poser la question d'être une meilleure version de vous-même. Donc, ce que je veux dire, c'est que avoir une connaissance un petit peu de tous ces sujets-là, ça permet de relativiser beaucoup de choses, y compris dans nos interactions sociales, mais aussi de nous interroger. Nous vivons quand même dans un monde où la plupart du temps, alors c'est peut-être j'ai un biais parce qu'on est sur Paris, mais il suffit de prendre le métro pour voir que on a peu de relations sociales affectueuses, bienveillantes entre nous. Vous prenez la voiture dans Paris, vous allez tout de suite voir que vous allez plus avoir des insultes, envie de taper des gens pour des sujets qui sont quand même assez futiles. Hein. C'est-à-dire qu'il suffit que vous soyez dans le métro et qu'il y ait quelqu'un qui vous marche sur le pied, vous avez déjà envie de l'agresser ou qui vous pousse, vous avez déjà envie de l'agresser. Et je me dis, des fois, comprendre un petit peu mieux pourquoi en fait vous réagissez comme ça, pourquoi en fait votre cerveau dans ces situations stressantes automatiquement va interpréter que votre comportement, enfin le comportement d'autrui en fait, il est intrinsèque, c'est parce que en fait c'est lui qui voulait me nuire en fait, c'est juste un biais en fait. Dès que on interprète les comportements d'autrui, on a tendance à considérer que c'est une volonté, c'est qu'il avait envie de faire les choses. Comprendre ça, ces erreurs, comprendre ces biais cognitifs, ça me permet de relativiser. Alors moi, quand on marche dans le métro, j'ai aussi mal, j'ai aussi cette première réflexe d'essayer de pousser ou peut-être de me dire hein, « qu'est-ce que tu fais, connard ?» C'est vraiment ce truc, c'est ça, on l'a. Mais peut-être en fait qu'on peut l'inhiber, bloquer un petit peu cette première réaction et s'interroger. Peut-être qu'il n'a pas fait exprès, peut-être qu'en fait, il n'avait pas de place. Et peut-être que si j'avais avancé plus rapidement ou peut-être que si je lui laissais une place, ce serait mieux. Puis à quoi ça sert en fait de se prendre la tête? Peut-être que la tolérance en fait, passera aussi par notre compréhension de nos réactions un petit peu négatives et parfois très disproportionnées.
Et on arrive à la fin de cet entretien. J'ai une dernière question rituelle pour vous. Le podcast s'appelle La Bascule. Donc, quel est votre conseil principal pour les gens qui ont envie de basculer?
Alors, la question que j'ai envie de vous poser, c'est basculer dans quoi? Parce que c'est ça le vrai... Alors, basculer dans la bienveillance, peut-être? Enfin, on pourrait revenir là-dessus. Mon conseil, c'est d'être un tout petit peu moins centré sur soi et attentif un tout petit peu plus aux motivations et aux intérêts des autres. Et de se poser la question de pourquoi les autres font le comportement et pas de vouloir l'expliquer hein, ou de croire savoir pourquoi ils l'ont fait. Donc, la bascule qu'on devrait peut-être avoir, c'est une bascule vers la bienveillance et se poser ces questions-là de comment je peux faire en sorte, dans une société telle que la nôtre, pour être plus à l'écoute des autres et moins centré sur moi-même et sur la protection de mon petit périmètre, mais plutôt du mieux vivre ensemble.
Merci Mathieu Cassou.
Merci à vous.
Pour retrouver toutes les références et les ouvrages abordés dans ce podcast, rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram La Bascule Podcast. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser 5 petites étoiles ou un mot doux sur Apple Podcast. À bientôt pour de nouveaux épisodes de La Bascule.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and Press-On falsies.